Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le mail, épisode 26 de la saison 2 avec Renaud.
Ouais, encore moi. Écoute, avant de commencer dans nos sujets, comme d'habitude, on remercie nos partenaires. Tout d'abord, Elite Prospect, notre site numéro un pour tout ce qui est recherche hors visionnage. Donc, quand on parle de statistiques, peu importe, Elite Prospect, c'est la ressource numéro un, l'historique d'un joueur comparé à un autre joueur, peu importe tout ce qui est statistique, notre ressource, c'est Elite Prospect. Puis si vous aussi, vous voulez des statistiques plus avancées, mieux comprendre un joueur, on vous offre un code DLM30 pour un 30% de rabais sur leur abonnement annuel. Ce qui vaut vraiment le coup, vous l'achetez une fois, puis après ça, vous n'y pensez plus de l'année, puis vous avez les statistiques toute l'année. Le service est excellent. Merci à Elite Prospect.
On parle aussi d'un 30 % là, c'est pas rien, ça réduit de beaucoup le prix. Donc si vous hésitiez, là vous l'avez la raison là, pour l'acheter. Puis par la suite, ben, on a aussi QuickFeet, une compagnie, là, donc on en parle souvent, les petites semelles en liège qui améliorent la comment je pourrais dire ça, le patin, le confort sur la glace, la performance, c'est ça le mot que je
L'aisance.
cherchais, l'aisance vraiment. T'sais, si vous jouez au hockey dans une ligue de garage ou si votre enfant joue ou whatever, que vous jouez au hockey sur la glace, ça peut vraiment avoir un bel impact sur votre jeu ou le jeu de votre entourage.
Donc,
Donc, le code ici sur la bande 10 au site, c'est dans la
ah,
description
bio
du
sur
pod.
notre site, partout. Écoutez, avant de commencer notre sujet principal, on a plusieurs petits sujets en rafale qu'on veut vous présenter. Donc, tout d'abord, mais avant de présenter ce sujet-là, je voulais dire bravo justement à notre chroniqueur Sylvain Plamondon qui a couvert ça vraiment dans les 3-4 derniers jours, celui qui a titré au Lion de Trois-Rivières, qui a couvert ça vraiment en détail. Allez voir son compte TikTok si jamais vous voulez voir vraiment en détail tout ce qui s'est passé. Mais on a eu la nouvelle que les Lions de Trois-Rivières allaient au moins pouvoir finir leur saison. Puis après ça, potentiellement, un acheteur. Donc, très bonne nouvelle. Les Lions de Trois-Rivières continuent. Les Canadiens ont encore un affilié dans la ECHL. Ça fait pas comme les Growlers du Newfoundland, l'équipe de Toronto qui, eux, doivent cesser. C'est un peu cruel, là, juste avant les séries, qui doivent cesser leur activité en ce moment. Donc, au Québec, on est chanceux avec Trois-Rivières. On parle de peut-être que l'équipe déménage en Ontario. Donc, c'est pas garanti que ça reste à Trois-Rivières, mais au moins, il y aura des séries éliminatoires ECHL à Trois-Rivières.
Ouais, très bonne nouvelle. Puis c'est ça, Sylvain, lui, depuis le début, il est à la couverture et il fait un excellent job. Puis bon, là, je vais juste sortir du hockey vite, vite. On parle beaucoup la semaine passée, on a parlé de hockey féminin, de NCAA. On parle beaucoup de NCAA masculin aussi. Mais en ce moment, je veux vous parler de vite, vite, là. Il y a la NCAA au basketball féminin et tu as la prochaine joueuse qui va amener énormément d'attention à ce sport-là. Et c'est Caitlin Clark de l'équipe de Iowa, ben de l'Université d'Iowa, qui est tout simplement phénoménale. Hier, ils ont gagné contre LSU en quart de finale. Ils s'en vont en demi-finale et elle a vraiment tous les atouts pour être une joueuse étoile. Et elle a déjà plus d'abonnés que McDavid sur Instagram. Donc, juste vous donner une idée à quel point elle va amener énormément de visibilité. Donc, juste vraiment, là, si le match passe par là, vraiment, regardez ça, c'est vraiment du bon basket.
Ou bien des compilations sur Internet,
Ah,
c'est
juste des
assez
compilations.
impressionnant. Puis ça, en tout cas, tout un match, là, si vous voulez
Vraiment.
vous pogner la reprise ou bien la finale, ça va continuer à être excellent. Sinon, pour revenir au hockey, à Laval aussi, on a eu des nouvelles, ben pas des nouvelles, on l'a eu concrètement. Là, on vous avait dit la nouvelle que Rain Baker s'en venait avec l'équipe, puis on a vu, je pense, quatre matchs de jouer, trois ou quatre matchs en ce moment de jouer.
Six.
OK, excellent. Puis, ben nous, on a eu la chance déjà d'en voir grâce à AHL TV. On en a vu par vidéo. Puis, en plus, on était là, je pense, c'est samedi pour leur match. Donc, on l'a vu jouer aussi en personne. Puis, écoutez, pour le moment, c'est encore une période d'adaptation. Les minutes ne sont pas encore énormes. Donc, ça ne sert à rien de faire une analyse puis dire si ça va être, ça va, tu sais, de le projeter, de changer tout ce qu'on a vu à cause de ça maintenant. Mais, écoute, il est imposant sur la glace. Moi, je m'attendais à avoir peut-être un tout petit peu plus d'erreurs. C'est sûr qu'il y en a. Quelques erreurs de marquage, mais tu sais, rien de décevant pour un joueur de son âge qui vient de s'adapter à la ligue. Donc, j'ai été vraiment, je dirais pas agréablement surpris, mais du bon hockey de Rain Baker, il est imposant sur la glace, monte bien la puck. On l'a vu marquer un but justement avec des belles mains. Il montre bien ses habiletés, ses habiletés. Puis, comme je dis au début, l'aspect de son jeu qui m'a surpris, c'est à quel point il n'y avait pas beaucoup d'erreurs. Puis ça, je trouve ça vraiment encourageant.
Ouais, son patin, c'est sûr que c'est impressionnant. Moi, j'ai été vraiment surpris de sa grosseur en live, là, vraiment de voir à quel point il est plus gros que tout le monde. Puis c'est ça aussi, juste un jeu clean. T'sais, j'ai pas tant de choses à dire encore parce que justement, on l'avait dit la semaine passée ou il y a 2 semaines que les premiers matchs, même juste la fin de saison de Rainbaker, il fallait pas trop sortir son calepin puis prendre des notes parce que c'est une adaptation. Puis j'avais dit, si ça va mal, on ne prend pas de notes. Si ça va bien, on ne prend pas de notes. Parce que, tu sais, des fois aussi, juste l'adrénaline d'arriver ici, tu sais, il va vraiment falloir voir au camp l'année prochaine où est-ce qu'il en est. Je ne sais pas en ce moment dans la hiérarchie des défenseurs droitiers et où, mais je veux dire, qu'est-ce qui était vraiment, vraiment rassurant en ce moment, c'est de voir la brigade défensive de Laval puis de se dire qu'il y en a peut-être quatre là-dedans, tu sais, qui sont vraiment genre des espoirs. Tu sais, je veux dire,
Ouais.
espoir, c'est un gros mot, mais dans le sens, c'est Barron, Ranbacker,
Mayo.
Mayhew, Trudeau, tu sais, tu te dis, déjà, tu as quatre gars-là qui sont jeunes et qui ont le potentiel à l'NH. Puis là, bon, on va ajouter un Engstrom sûrement à la fin de
Ouais.
la saison. Mais lui, Engstrom, by the way, Rogle sont en train de vraiment juste
Ouais.
complètement avoir un Cinderella run. Là, ils ont gagné en huitième et Rogle était neuvième, là, on s'entend. Ils ont gagné en huitième, ils ont gagné encore contre la meilleure équipe de la saison. Et donc là, ils se ramassent en demi-finale et Engstrom joue un rôle très important.
Oui, bref, puis tout ça pour dire justement que il va y avoir du renfort qui arrive à la balle, puis que c'est excitant de voir une défense avec autant de joueurs qui pourraient potentiellement porter le chandail du Canadien. Puis écoute, pour finir sur Rainbaker aussi, on a Jean-François Houle qui avait dit que justement, déjà, il avait vu que Rainbaker donnait un petit edge de plus à son équipe. Puis écoute, sans que ça soit la pièce principale qui fait en sorte que Laval gagne autant de points dernièrement. Je suis quand même d'accord qu'il amène quand même un petit quelque chose et que son apport n'est pas négligeable. L'équipe est meilleure avec Rainbacker qu'elle était sans lui. Donc.
Ouais, puis tu sais, c'est comme quand Jacky avait débarqué à Laval, ça avait vraiment fait un effet positif à l'équipe. Ils avaient commencé à gagner des matchs. Je pense qu'il y avait eu comme un 10, 19
Ouais.
matchs de suite sans perdre, sans faire de match sans points. Mais tu sais, parlant de Laval, l'année passée, il y avait le goaler que ça faisait très longtemps qui bouillait et qui était en train de vraiment maturer à Laval. Et là, maintenant, il est avec le Canadien, Caden Primeau. Et cette année, c'était vraiment sa première saison vraiment officiellement dans la Ligue nationale. Et là, ben, il y a eu le trophée Molson, donc c'est pas un trophée que les joueurs vraiment s'arrachent et sont super contents quand ils gagnent, mais ça peut être un bon montant. Puis tu sais, Primo a été le récipiendaire pour le mois de mars et c'est pas pour rien. Je veux dire, en cinq matchs, trois victoires en temps régulier, une défaite en temps régulier, puis une défaite en shootout, si je me rappelle bien, avec un pourcentage d'arrêt de 9,39, vraiment, tu sais, excellent. Puis tu sais, sincèrement, ça fait poser la question, dépendamment de comment leur été se passe. Et comment ils sortent au camp, Primo pourrait vraiment aller rivaliser et devenir, tu sais, pas prendre la place du numéro un, mais peut-être devenir justement enlever le fait qu'il y a un numéro un, peut-être devenir
Ouais.
half and half avec Montembeault. Tu sais, on s'entend que Montembeault avait eu un camp difficile, donc des fois il y a des gars de même que le camp c'est un peu plus difficile, puis après au courant de l'année tu les revois renaître. Donc tu sais, est-ce que ça va être ça l'année prochaine, puis Primo va gagner des points dès le début? Peut-être.
Puis écoute, pour finir sur nos survols début de podcast, là, tu sais, je sais que Rainbaker était dans le titre, mais c'est que on avait tellement de petits, plus petits sujets cette semaine que c'était difficile de choisir sur quoi mettre l'accent. Mais on revient un peu sur un sujet qu'on avait parlé avant. Fait que, tu sais, quand on avait commencé à parler des playoffs NCAA, on ne savait même pas encore c'était quoi les
C'était
match-ups
quoi,
de début. Puis là, c'est rendu excitant parce qu'on a les match-ups de Frozen Four. Fait que, écoute, j'ai parlé du premier, puis je te laisse parler du
ouais.
deuxième.
Moi, j'ai des choses à dire sur tout.
Ben, c'est ça.
Vas-y,
Rien
demande-moi.
ne t'empêche, rien ne
Non.
t'empêche. J'amène le premier. Déjà, pour commencer, on a Denver contre BU. Écoute, Boston University, c'est une équipe que je pense que les fans du Canadien connaissent bien à cause de Lane Hudson. Une équipe qui est quand même intéressante. J'aime bien quand même leur balance. Puis ils ont joué super bien pour le moment dans les playoffs. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on parle de Lane Hutson. Mais aussi, tu sais, à l'autre de l'autre bord, il y a aussi Willander. Donc, tu sais, ils n'ont pas juste des défenseurs offensifs. C'est pas une équipe qui est trop axée sur un côté. En tout cas, j'aime
Ouais,
beaucoup les regarder jouer.
ils ont Webster, le grand défenseur de Toronto maintenant,
Ouais, c'est
t'sais.
vrai, énorme.
Gallagher.
Puis de l'autre côté, ils jouent contre Denver. Denver, peut-être une équipe un tout petit peu moins flashy. Mais qui ont des joueurs quand même très complets. Puis eux, le joueur qui retient vraiment l'attention dans leur équipe, bien sûr, c'est Bouillum. Celui éligible au repêchage, pas
Non,
son
pas son
frère.
frère.
Même si son frère, écoute, pas négligeable comme performance, là, solide. Mais c'est vraiment Bouillum qui a une saison offensivement incroyable. Puis avec son vraiment comment il est build, ça devient vraiment un choix attirant pour le repêchage cette année. Donc, c'est vraiment excitant de voir un joueur comme ça, 18 ans, avoir autant d'impact sur des séries. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce match-up-là, parce que ça va être intéressant. Puis Bouillum, Lane Hutson, face à face, écoute, on pourrait penser qu'à cause du build, c'est deux joueurs complètement différents, mais je pense qu'ils ont quand même certaines similarités qui vont rendre ça vraiment intéressant de comparer les deux dans le même match, dans un match qui compte pour autant pour leur équipe.
Ouais, puis tu sais, pour parler de ce match-up-là, je veux dire, Denver, moi, quand j'avais parlé de la description des équipes la semaine passée, ou non, il y a 2 semaines, là, ça, je suis
Ouais, la semaine
perdu de se
passée, c'était
mêler, là.
Santerre.
C'est Santerre. Donc, pas la semaine passée, il y a 2 semaines. Justement, j'avais parlé à quel point Denver, c'était une équipe qui était bâtie pour gagner un championnat universitaire. Tu sais, c'est une équipe qui est remplie de vétérans, de jeunes vétérans, bien évidemment, parce qu'ils sont en NCAA, mais aussi de joueurs comme Bouyum ou, mettons, même un Devine. Mais, tu sais, BU, vraiment. Impressionnant, je veux dire, Lane Hutson fait Lane Hutson, et tu sais, il fait des buts. Là, à date, il y a 3 buts en 3 matchs. Il joue d'une manière vraiment, vraiment excellente. Puis bon, leur goaler, qui n'est pas le préféré à tout le monde, Mathieu Caron, vraiment sort bien en ce moment. Puis bon, l'autre match-up, si tu me permets, c'est BC, donc Boston College contre Michigan. Et tu sais, moi, j'avais dit justement que si BC, Michigan, non, pas Michigan. BC et BU, si ça ne commençait pas dans le Frozen Four, c'était déjà une défaite. Puis j'avais même ajouté que Denver, il fallait qu'il se rende dans le Frozen Four, sinon c'était une déception. Et bon, les trois sont là. C'est du top 4 là, dans le top 8 de la saison. Du top 4, c'est juste Michigan Tech qui n'est plus là. Mais BC, vraiment, là, c'est impressionnant. Ils sont passés à ça de se faire éliminer en prolongation contre Quinnipiac, qui a vraiment donné un très gros match-up pour une équipe comme BC qui est remplie de stars NHL. Et ça, c'était le cas de Michigan, en fait. Michigan, Fantilli, Owen Power, et c'est ça. Là, Star BC, c'est un peu le même style. Puis je veux juste parler 2 secondes de Quinnipiac, parce que il y a 2 semaines, on parlait des UFA, donc des joueurs autonomes qui n'ont pas été repêchés dans la NCAA. Puis on parlait précisément de Jacob Quillian et Colin Graff de Quinnipiac. Et comme la saison est finie pour eux, Quillian n'a pas hésité et a signé 2 ans avec les Leafs. Donc, ça va être intéressant de voir avec les Marlies comment ça se déroule pour lui. Et Colin Graff est supposément rendu à une décision entre 8 équipes. Donc,
Ouais,
il y a des équipes qui ont
le
été
choix.
enlevées. Apparemment, Minnesota est vraiment dans, Calgary est vraiment in. Donc, tu sais, encore une fois, faut relativiser les choses. Je veux dire, les free agents NCAA, ce n'est pas la réinvention de Zegras ou whatever, là. Tu sais, on s'entend que, mettons, un Zach Aston-Reese avait été signé à 22 ans après une saison de 63 points en 38 matchs, genre. On s'entend que Zach Aston-Reese, en ce moment, à 29 ans, il est dans AHL. Donc, tu sais, faut quand même attendre, là, je veux dire, on va pas. Pourquoi le Canadien ne va pas chercher des gars, tu sais, on va voir, là.
Bon, mais tu peux pas.
Pourquoi j'ai oublié son nom, là? Gorton, excuse-moi. Gorton avait dit qu'il était resté à Montréal pendant le trip pour faire des recherches sur les NCA. Donc, peut-être qu'ils ont un gars caché.
Ouais, en gros, tu ne builds pas ton équipe avec les free agents
Non, exactement.
NCAA, mais pour une équipe comme Toronto, justement, qui ont besoin d'un peu de depth, c'est comme la situation parfaite. Puis on a vu l'impact que Mathieu Nyes a eu en série l'année dernière. C'est sûr que Mathieu Nyes, c'est un prospect de beaucoup plus grosse
J'avais été
envergure.
drafté.
Mais oui, c'est ça. Mais à la fin de la journée, un joueur de NCAA peut arriver puis surprendre par à quel point justement est utile puis prêt à un jeu LNH. Puis pour finir sur les séries NCAA, je vais parler justement de Michigan. Je te disais avant le podcast que je trouve que c'est l'équipe la moins excitante quand on regarde les noms à jouer, mais je dois quand même leur donner le crédit. C'est l'équipe qu'on pensait le moins qui serait là puis qui est là. Puis leur match pour se rendre là contre ces Michigan Tech, c'est ça, en
Ouais.
tout cas les Spartans, c'était super excitant. Puis sur leur. Sur Instagram de NCAA, il avait montré le chart des 7 derniers matchs de Michigan contre Michigan. Puis finalement, Michigan Tech avait gagné les 7 derniers matchs. Donc pour arriver,
State, excuse-moi, State.
Michigan State, pardon. Puis pour arriver
Ouais.
là-dedans en série, puis de gagner celui-là. Puis écoute, les 2 premières périodes ont été super serrées, mais la 3e période, ils ont pris de l'avant, puis ils ont dominé. C'est super impressionnant. Puis écoute, une équipe qui est justement, on a enlevé les gros noms, mais qui pourrait quand même causer des surprises, comme on a vu. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils allaient battre l'autre Michigan pour se rendre là. Mais je pense que ça fait un bon tour, puis je pense que
Ça
cette
fait un
année,
bon
on a
tour.
un bon on a une bonne picture. Ça va être très, très intéressant. Puis écoute,
Ouais, puis
Boston.
ça commence jeudi prochain.
Ouais.
Juste le dire. Puis je sais pas si tu as dit Boston, fait que j'imagine quelque chose.
Ouais,
Mais tu sais,
mais
Boston U contre Boston ici, ça
c'est
serait
ça.
vraiment intéressant. Je veux dire, c'est des équipes qui se sont ramassées au Beanpot, ramassées en division. C'est
Puis
vraiment, tu sais, Jacob Fowler. Moi, je veux dire quelque chose, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, on dirait, je me dis, si Jacob Fowler se rend à gagner le championnat avec BC, il a été à date. C'est le défenseur goaler Frenchman, donc première année, qui a eu le plus de victoires. Il vient de dépasser Al Montoya avec ses 31 victoires. Moi, je me dis peut-être que l'organisation du Canadien et l'organisation de Fowler va faire. Ah, regarde, il a gagné le Frozen Four, il a gagné le championnat, il a été le goaler avec le plus de victoires freshman. Tu sais, ça ne m'étonnerait pas peut-être qu'il fasse comme, hey,
ouais.
On l'envoie, je ne sais pas.
Ben, écoute,
Je
ça va
lance ça avant.
dépendre. Ça va... Oui, écoute, c'est une... puis je pense que tu n'es vraiment pas le seul à le lancer. Puis on avait parlé quand on parlait de nos redrafts, quand on parlait d'un Wallstead, admettons, qui se fait monter. C'est juste qu'avec un gardien de but, sans travailler dans le développement de joueurs, c'est pour une équipe, c'est vraiment tough à gager. Mais tu sais, ça peut être vraiment facile de le rush à cause du hype, de le mettre dans une situation où, tu sais, justement, si, admettons, il jouait comme à fin de saison, slash série à Laval, puis c'était comme, ah, c'est la course, on a beaucoup de pression. Ça peut être excellent pour un prospect, comme, admettons, cette saison, je trouve que Wallstead répond bien à la pression. Ça peut être excellent, puis c'est comme ça que tu crées vraiment ton futur prochain gardien, mais ça peut être aussi horrible, tu sais, s'imagine si le premier match est 800 save percentage. En tout cas, je pense que juste en regardant le joueur jouer, puis en n'ayant pas accès au behind the scenes, c'est très, très difficile de commenter là-dessus, mais c'est vrai que d'un point de vue statistique puis de la situation dans laquelle Laval est, ça peut être très, très intéressant quand même comme option.
Oui, puis de toute façon, à un moment donné, ça va se coincer dans les gardiens de but. Je veux dire, tu sais, là, tu auras Volokhin, à un moment donné, il va falloir savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Je pense pas qu'il va vraiment signer en Russie s'il n'y a pas des plans pour devenir, tu sais, le goaler en KHL ou whatever. Ensuite, Quentin Miller, bon, on va le laisser cette saison, l'année prochaine, puis il s'en viendra après. Donc, tu sais, est-ce que... Moi, je dis qu'il faut qu'il gagne la Coupe pour avoir des chances de signer avec le Canadien parce que le connaissant de l'extérieur, mais connaissant Fowler, c'est un compétitif. Et lui, s'il regarde sa team puis il se dit, moi, l'année prochaine, j'ai encore des chances de gagner. Je pense que lui, il refuserait de tourner pro juste pour la simple et bonne raison qu'il veut gagner le championnat. Donc, tu sais, de voir. Mais qu'est-ce qui se passerait, par exemple, parce que là, est-ce qu'on se ramasserait avec Daubech puis Fowler l'année prochaine?
Ouais, c'est ça. C'est ça
qui est curieux. Du temps de glace à voir.
Puis, tu dis l'année prochaine, ça aussi, ça serait une option. Tu sais, admettons, ils gagnent le championship, ils font un peu comme Daubech l'année dernière. Ils l'amènent, mais ils ne font pas jouer. Juste, tu sais, qu'ils prennent l'ambiance de l'équipe. Puis on a vu Strassman aussi qui était rappelé. Fait ils ont des options de gardien. Mais tu sais, juste peut-être l'amener, voir l'ambiance, puis le faire jouer la saison prochaine, comme ça a fait pour Daubech. Puis Daubech, ça n'a pas cliqué dès le début de la saison, mais maintenant, ça s'en vient quand même solide. Fait que, en tout cas, parlons. On est sur une lancée de gardien de but. Fait que, parlons, on va vous faire un peu un tour, un survol, là, tu sais, sans rentrer trop en depth des. Série éliminatoire LHGMQ, il ne faut pas dire playoff après Drummondville. Série éliminatoire LHGMQ. Puis je pense que l'équipe, que les deux, on se met d'accord, qu'on pense qu'il va aller le plus loin, c'est Rouyn. Puis pourquoi est-ce que quand je dis Rouyn, je dis on va faire un lien avec les gardiens de but, c'est à cause de Rousseau qui est dans les buts pour eux. Rousseau, puis ça va pour Véro, beaucoup de membres de l'équipe de Rouyn, c'est un gars d'expérience, il sait ce que ça prend pour gagner, puis avoir un leader comme ça dans les buts, c'est énorme pour une équipe, puis je pense que c'est pour ça que nous, je parle pour toi un peu, là, qu'on voit que Rouyn, ça pourrait être l'équipe qui va le plus loin au Québec, puis qui a le plus de chances de ramener la Coupe Memorial au Québec encore une autre année, c'est vraiment à cause de, numéro un, les stars, ils ont le meilleur scoreur de la LHGMQ Antonin Véro, le meilleur gardien de but de la LHGMQ, statistiquement parlant, dans certaines statistiques, l'un des meilleurs en Rousseau. Puis, ils ont juste énormément d'expérience d'aller loin dans les séries. Tu sais, un Véro, là, non seulement il a été le premier dans le scoring en LHGMQ, mais en plus, c'est un gars que l'année dernière, il pensait qu'il pouvait tout gagner avec Gatineau. Puis ça s'est planté plus tôt qu'il pensait, puis de façon super décevante. Fait que ce gars-là, il a faim, là, il a vraiment faim pour aller loin en série LHGMQ.
Ouais, puis je veux dire, Rousseau, c'est impressionnant. Là, depuis le début de la série, tu sais, deux victoires en deux matchs. Sur 50 tirs, il y a juste un but qui est rentré. Ça lui donne un 9,80 de save percentage, puis 1,5 buts par match. Donc, tu sais, veux pas que tu aies une équipe incroyable devant toi. Là. William Rousseau, goaler de l'année dans la LHGMQ, il débarque et te fait des statistiques de même. Je veux dire, comment tu peux pas gagner? Tu sais, c'est comme il sort... au moment les plus opportuns. Tu le dis, un gars qui a de l'expérience, il l'a gagné l'année passée. Oui, il y avait une équipe incroyable devant lui, mais tu sais, c'est une équipe que tu regardes et tu te dis, comment tu veux les battre? T'sais? Je veux dire, Bécomo joue très bien, Chicoutimi joue très bien, ouais, Acadie joue très bien, mais tu sais, on se rend compte qu'à un moment donné, pour se rendre à la fin, il faut que tu sois dans les tops, puis tu peux pas te ramasser là juste avec des prolongations, whatever. Bon, le Canadien de 93 me dirait le contraire, mais tu sais, Vraiment, moi, je trouve que Rouen, ils sont impressionnants.
Oui, c'est sûr. Puis écoute, il y a trois petites équipes dont on a mentionné qu'ils sont intéressants. Mais avant de rentrer dans justement ces trois faits rapidement, il y a quand même l'équipe que tu as mentionnée, Bécomo. Je pense que c'est sûr que le plus de gens diraient oui, mais c'est une des meilleures équipes dans la CHL. Oui, mais c'est la meilleure équipe de la LHGMQ. Puis écoute, pour plein de statistiques offensives, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'était la meilleure équipe de saison régulière, 100% sûr. Ils pourraient vraiment y aller là, dans les séries. Tu sais, je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'ils ont une équipe qui, justement, déjà, je trouve que leur offense ne bâtit pas assez de jeu. C'est beaucoup trop sur la relance. Je trouve que c'est un peu facile à contrer quand ils vont arriver justement contre une équipe contre Rouen là, dans les séries éliminatoires où c'est vraiment plus intense. Je pense que c'est une équipe qui pourrait être facile à... Ben, pas facile à stopper, là, je ne veux pas dire ça comme ça, mais ça pourrait... Tu peux vraiment adapter tes stratégies à comment Bécomo joue puis les coincer un peu dans la zone du milieu. Puis aussi, ils ont une équipe très jeune. Leur star, là, on parlait d'Alexis Bernier quand on avait fait l'analyse. Il est très jeune, Alexis Bernier. C'est son année de repêchage. On parle des frères Boislard. Raoul Boislard qui va être choisi sûrement première, deuxième ronde cette année. Il est jeune. Justin Poirier, 50 buts, c'est incroyable. Mais il est encore jeune. T'sais, ils n'ont pas le même aspect d'expérience série LHGMQ que...
Ben, ils ont Guil, mais il ne s'est jamais rendu très loin.
Non, c'est ça. Fait une équipe intéressante, mais je pense que ça serait... T'sais, le fait que cette année, ça a été autant bon, je trouve que c'est super intéressant pour les années qui viennent. Je pense que l'année prochaine, ça va être une équipe encore plus redoutable. Je pense que cette année, ils vont être projetés haut, mais c'est une équipe qui va plus aller ramasser de l'expérience. Mais bon, qui sait, hein, ça pourrait cliquer.
Puis aussi, tu sais, on parle d'une équipe qui l'année passée était bon puis qui avait beaucoup d'espoir pour cette année, puis c'est Halifax. Puis Halifax, en ce moment, c'est décevant. Bon, on sent que c'est deux défaites en prolongation, puis en ce moment, ils perdent le match, mais tu sais, Drakkar, c'est cette année qu'ils sont bons. Moi, je suis vraiment d'accord aussi que c'est une équipe qui pourrait surprendre. Mais moi, si je devais parler d'une équipe jeune qui surprend, moi, c'est Chicoutimi que je trouve qui joue vraiment, vraiment très bien en ce moment. Sincèrement, les jeunes sont là, l'équipe est là en tout ensemble. Ils ont tellement été bien repêchés. Si on regarde là, le draft des Olympiques en 2020, puis on regarde le draft de Chicoutimi en 2023, je pense que pour l'instant, je prends vraiment un favori sur Chicoutimi.
Ça a cliqué vraiment vite.
Ils sont allés chercher des joueurs qui se complétaient. Puis je ne suis pas en train de dire que Gatineau a fait une mauvaise job, mais tu sais, quand tu regardes 4 ans après, puis que dans les joueurs qui ont été sélectionnés, tu as Luno et Warren qui sont repêchés, qui vont, ça va très bien, là, surtout Luno. Mais tu sais, Véro et Savoie, c'est quand même deux gars qui sont repêchés plus tard, alors que vraiment, le Chicoutimi ont des gars qui sont déjà impliqués, qui sont déjà à la tête. Je veux dire, Émile Guité, c'est incroyable ce qu'il fait. Wang, c'est incroyable ce qu'il fait. Prudhomme, il joue très bien. C'est une équipe que moi, j'aime vraiment regarder, là, avec Grécourt d'un but.
Puis, ils ont des gars que, justement, admettons, Émile Guité, tu regardes beaucoup dans l'analyse du repêchage, puis vous regardez notre analyse, on dit, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui le voient déjà comme un joueur plus complet que Maxime Massé, puis Maxime Massé est classé, tu sais, comme un des top espoirs québécois pour le draft cette année, qui pourrait sortir première ronde. Fait que, tu sais, juste dire que Guité est potentiellement déjà meilleur, selon votre opinion puis vos observations, qu'un gars comme ça, c'est quand même incroyable. Puis, écoute, pour finir sur la série et la GMQ, je vous amène deux situations, je pense, qui valent juste la peine d'être mentionnées, un peu de storyline, je n'ai pas la traduction. Là. Mais déjà, à Victoriaville, s'ils se rendent loin, oui, ils ont Warren, oui, ils ont une équipe solide, mais ça va vraiment être à cause de Darvaux. Pour le moment, la première ronde se passe bien, mais ça va être contre les grosses équipes que ça va être un challenge. Mais écoutez, il ne faut jamais compter l'équipe out quand il y a Darvaux dans les buts. Il joue tellement bien. Si on parle de bons gardiens de but, le numéro un meilleur gardien de but dans la Ligue cette année, c'est soit Rousseau, soit Darvaux. Tu sais, mais les deux sont vraiment à un niveau haut que tous les autres gardiens de la Ligue. Puis c'est sans dénigrer aucun autre gardien de but dans la Ligue. Là. Je sais que Saint-Hilaire, admettons, il est incroyable. Il y a plein d'autres gardiens, mais Darvaux et Rousseau, c'est un autre level. Puis sinon, Drummondville, qui aurait pu potentiellement aussi avoir une année redoutable. Malheureusement, Maverick Lamoureux ne sera pas avec eux dans les séries. Pas pour dire qu'ils n'ont pas une bonne équipe, même sans l'amoureux, tu sais, Ethan Gauthier joue. Ils ont d'autres gros noms, mais c'est que tu enlèves la pièce principale de leur défense. Puis aussi, c'est d'un point de vue de carrière, j'espère pour l'amoureux que ce n'est pas au même endroit. Je n'ai pas les détails de la blessure, je ne sais pas, mais je lui souhaite vraiment que ce ne soit pas au même endroit parce qu'au junior mondial, il y avait vraiment mon. Tu sais, quand il a été pris à la fin de la première ronde, on s'est dit, est-ce-tu vraiment là qu'il fallait qu'il sorte? Puis au junior mondial, je trouve qu'il avait vraiment montré, OK. Tu as quand même un flair offensif. Peut-être qu'Arizona, on fait une très bonne affaire en allant te choisir là. Mais s'il y a tout le... Fait que je souhaite que ce ne soit pas au même endroit parce que je pense que ça pourrait être un très bon défenseur québécois s'il est en santé et si tout marche bien.
Ouais, puis tu sais, gars, je sais qu'on n'en a pas parlé, mais moi, Guité, je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant bon et autant complet. Et donc là, vraiment, même en ce moment, je pense que si on faisait un redraft, il serait pris devant Desnoyers. Alors que Desnoyers
Potentiellement.
était vu vraiment comme le driver de ligne, la star. Puis moi, je me rappelle de le dire là, que Desnoyers, star dans ton équipe, il joue très bien le Desnoyers,
Ouais.
mais Guité, vraiment, c'est incroyable, c'est impressionnant. Puis j'ai hâte de voir où est-ce qu'il tombe dans le draft l'année prochaine parce que c'est un très bon draft au top.
Trouve.
C'est ce cas.
Mais c'est qualité, c'est juste.
J'ai hâte de faire un report sur lui dans la LHMQ.
C'est juste que si on met les deux, ça qui est drôle, c'est que, tu sais, finalement, Guité, on l'avait souvent mis la saison dernière comme quelqu'un qui, justement, vient compléter Desnoyers, mais finalement, c'est peut-être plus, tu sais, juste, oui, ils se complètent bien les deux ensemble, mais c'est peut-être plus, justement, quand Émile Guité, il est capable de trouver tout le monde. Quand tu le mets sur une ligne avec n'importe quel joueur, il est très bon pour aller rendre tous les joueurs de son équipe meilleurs avec des passes qui sortent de nulle part. En tout
Non,
cas, il
c'est
est
ça.
super impressionnant. Mais oui, je pense que si on faisait un redraft de la GMQ, il y aurait des chances comme quoi ils sortent premier. Puis ça va être excitant de faire le segment qu'on va faire en ce moment, mais
L'année
sur
prochaine.
lui l'année prochaine.
Ouais. Fait que
Ben.
sur ce, on a passé tous nos sujets plus en profondeur ou moins, dépendamment de ce qu'on avait à
À
dire
vous de
dessus.
choisir.
Donc là, sur ce, on commence notre analyse de joueurs pour le draft 2024. Et c'est encore un défenseur de la Ligue de l'Ouest, Carter Yakemchuk.
Je pense que c'est le joueur le plus controversé qu'on a fait pour le moment, dans le sens où Carter Yakemchuk, c'est un joueur qui, sur certaines listes, va aller sortir haut. Donc, tu sais, qui va être dans le top 10. C'est proche du numéro 5. Puis il y a d'autres listes où je l'ai vu où il était 15, 16, 17, 18. Donc vraiment plus bas. On va vous expliquer un peu notre opinion dessus, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'il est autant controversé? C'est que contexte d'équipe, il est dans une équipe qui est horrible. Puis l'équipe dépend, c'est le leader en points de l'équipe. Puis l'équipe dépend énormément, énormément de sa production offensive. Donc ce que ça a fait, c'est que Yakemchuk, pour plein de raisons qu'on va vous décrire, est un joueur offensif. Je pense le meilleur défenseur offensif de cette QV, tu sais, potentiellement avec Perek, ça serait un débat, mais un joueur où c'est difficile de lui trouver des trucs à reprocher en zone offensive, mais ça fait que ça a vraiment développé chez lui un esprit offensif. Fait que les gens qui vont le mettre haut vont dire, regardez, il est 6 pieds 3, sa défense va se développer. Puis en plus, il y a déjà le côté offensif que certains autres défenseurs maîtrisent moins. Puis ceux qui vont le mettre bas vont dire, oui, il est excellent offensivement. Mais son côté défensif laisse vraiment à désirer. Fait que je pense que ça fait quand même une bonne idée de c'est qui ce bonhomme-là.
Ouais, puis moi, je veux juste porter une attention 2 secondes sur sa date de naissance. C'est septembre 29 2005. Donc, il était à un 19 jours d'être éligible pour l'année passée.
Ouais.
Puis, tu sais, même si on regarde juste l'année passée, 47 points en 67 matchs dans une équipe de bas de classement, c'est vraiment pas mauvais. Par la suite, 6 pieds 3, défenseur droitier. Donc, là, tu sais, si on est un directeur général, la date de fête peut peut-être refroidir, mais la grosseur et la latéralité, tout d'un coup, te fait oublier sa date de naissance. De deux, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui est spécial de regarder ça après avoir parlé de Dickinson, c'est que un Dickinson qui est dans une équipe vraiment très profonde en défensive, qui ne se base pas sur lui, sur ses productions, sur son style de jeu, sur sa, tu sais, sa qualité de jeu, ça peut vraiment impacter comment il est. Puis Yakemchuk, justement, il est dans toutes les situations. Et moi, comment je le caractérise, là, c'est un défenseur offensif rugueux. Et ça, c'est un style de joueur qui est très rare. T'sais, on pourrait dire peut-être que Jacky se ramasse là-dedans. Mais quand on y pense vraiment, t'sais, Provorov peut-être. Mais un défenseur offensif rugueux, c'est vraiment rare. Puis moi, c'est ce qui me fait penser que Yakimchuk pourrait vraiment sortir entre 5 à 7, 7e. Purement parce que c'est un défenseur droitier qui peut t'amener un plafond offensif vraiment impressionnant, puis on va vous en parler un peu de nos points offensifs, mais qui en même temps va pas avoir le côté qui se mêle pas, là. T'sais, lui, il va pour la physicalité, il est très fort physiquement.
Oui, puis écoute, rentrons justement. D'habitude, dans les défenseurs, c'est drôle parce qu'on préfère commencer par la zone défensive, mais je pense qu'avec Yakemchuk, on se doit quand même de commencer par la zone offensive parce que vous voyez 71 points. D'où est-ce que ça sort, ça, tu sais, quand on
Ouais,
regarde juste le build du
120
joueur,
minutes de pénalité.
d'où est-ce que ça vient? Puis comme je vous ai dit tantôt, ma première note, là, moi, sur son jeu en zone offensive, c'est que j'ai eu de la misère à trouver quelque chose de négatif. Donc, dans le sens, j'aime bien sa balance. Quand il est en zone offensive, il ne délaisse pas la ligne bleue. Déjà,
Ah.
premièrement, pour un défenseur offensif, souvent c'est ça qu'on va voir quel problème, c'est qu'il va aller dans la. Il va se mettre deep dans la zone, puis là, il va attendre. Jakim Chuck ne délaisse pas le jeu de la ligne bleue. Puis comment est-ce qu'il fait ça? Bien, c'est avec un coup de patin latéral qui est vraiment excellent. Donc, pour les changements de direction, pour quand on parle, tu sais, autour des cercles bleus, c'est vraiment excellent. Donc, déjà, ça, c'est une très bonne caractéristique qui lui permet de couvrir beaucoup, beaucoup de territoire en zone offensive. Aussi, sa protection de rondelle en zone offensive est à un autre niveau. Là, on parlait de comment Sam Dickinson, c'est difficile de lui prendre la puck. Jakim Chuck, c'est tout autant difficile. Mm-hmm. Là, c'est vraiment une caractéristique que ces deux-là partagent. Puis, il y a des très bonnes mains. Donc, pour un défenseur de sa taille, c'est extrêmement rare de voir ça. Puis, tu sais, comparé à même un joueur de 5 pieds 10 qui est attaquant, il y a des bonnes mains. T'sais, il y a des mains qui sont au-dessus de la moyenne pour ce draft-là, puis qui ne sont pas juste au-dessus de la moyenne, qui sont bonnes. C'est un très bon atout, puis qui sait comment utiliser. Puis ces bonnes mains, ça fait que ça se mélange super bien avec sa créativité. Moi, ce que j'aime beaucoup en zone offensive, c'est Jakim Chuck, il y a 10 000 atouts qu'il peut utiliser, puis on le voit, je ne l'ai pas trop vu aller vers un truc. Tu sais, donc, tu as des défenseurs qui, mais juste des joueurs en général, tu sais, admettons, Katten, quand on parlait de lui, on disait, oh, j'aimerais ça le voir tirer plus. Jakim Chuck, il n'y a pas de gros trucs chez lui que j'aimerais voir plus. Je trouve qu'il balance bien le. Quand il est à la ligne bleue, tu ne sais pas. Est-ce qu'il va s'avancer, déjouer trois joueurs, aller amener la puck devant le net? Est-ce qu'il va faire un tir? Parce qu'il y a un tir excellent aussi qui va amener la puck devant le net pour donner un retour. Ou bien est-ce qu'il va faire une passe? Puis, écoute, je te laisse parler de son jeu offensif après, mais chez ses passes, je n'ai pas vu un joueur pour le repêchage cette année qui a des passes que je décrirais autant 360. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il regarde pas en arrière puis il fait une passe puis ça arrive sur la palette. C'est que quand il sait qu'il y a un joueur derrière lui puis son esprit offensif est quand même très bon, fait qu'il sait quand il y a un joueur derrière lui en attaque. Quand un joueur derrière lui, vu qu'il est bon pour le skating latéral puis tourner, il est vraiment capable de se mettre en position puis faire la passe au joueur. Donc, quand je parle skating 360, c'est vraiment qu'il y a tellement de facilité à se tourner n'importe quel bord que ses passes suivent. Là. Si tu peux être derrière lui, t'es quand même une option de passe.
Ah, puis je sais qu'on dit souvent, tu sais, des gars, des gros gars comme un Silaev ou il est tellement grand, mais il skate, il patine comme le vent. Kemchuk, je vous dirais, sa vitesse en ligne droite, son patin en ligne droite, son accélération est vraiment average. Puis même, je dirais, ça pourrait quand même être un problème en termes de sa vitesse là, pour attraper des gars. Il y a une technique très étrange, puis je ne suis pas David Saint-Louis, mais je serais intéressé de demander justement à David Saint-Louis qu'est-ce qu'il pense de cette, cette capacité-là, de ce côté-là, parce que dès qu'il va en ligne droite, il y a Kemchuk, on dirait que c'est comme, ben voyons donc, puis dès qu'il doit commencer à patiner sur le côté, à faire des déceptions, à vendre son jeu, c'est quasiment là, tu te dis, ben voyons donc, c'est-tu Demidov? Puis Demidov, tu sais, on s'entend que Demidov, c'est le meilleur du draft pour ça, mais Jakim Chuck a vraiment, vraiment un côté impressionnant qui me fait genre, waouh, tu sais, je veux dire, en power play, puis moi, ce que je pense que Jakim Chuck, ça va être un gars de power play, je pense que ça va être un quarterback, ça va être le gars qui dirige ton power play parce que à la ligne bleue, là, il c'est comme si il était carrément attaché à la ligne bleue puis il faisait juste se promener, il se tourne, il fait une excellente distribution de rondelles tout en patinant, tout en, tu sais, il est toujours, tu l'as dit, 360, c'est toujours, ses gars sont où, même si il se tourne de bord, il revient, il la renvoie puis il sait que son gars est là, tu sais, c'est vraiment là, il peut mêler les défenseurs adverses, il va pas hésiter à tirer, puis tu l'as dit, il y a rien qu'on veut plus de lui parce que il va tirer, Jakim Chuck n'hésite pas à tirer, il va ouvrir ses jambes et son bâton en disant « Ah ouais, envoie-moi ça, je vais la slapper. » Ça ne va pas l'hésiter d'être à la ligne bleue, de voir un peu de monde devant le filet. Il va tirer, tu sais. Fait que c'est vraiment... c'est rare, je trouve, un gars, un défenseur, qu'on dit « Hey, lui, il tire, puis on veut pas qu'il tire moins parce qu'il tire trop. » Non, non, lui, c'est comme, c'est bien, il a une bonne décision, une bonne prise de décision. Et aussi, ce que je veux parler, c'est que je le trouve très proactif en zone offensive. Tu l'as dit, il va être attaché à la ligne bleue, mais il ne va pas aussi se ramasser à être coincé derrière le net puis à comme, tu sais, trop vouloir en faire. Peut-être qu'il y a le problème de Lev Shunov. Mais moi, je le trouve proactif comme Engström. Puis Engström, qu'est-ce qui est un élément important de son jeu? C'est vraiment à quel point, oui, il va être à la ligne bleue, mais il va être capable de faire une passe à son allié puis trouver, puis tu sais, juste aller trouver le trou pour faire un 1-2. Où il va toujours s'offrir en option de passe à une place qui est très justifiée en attaque. Donc, ce qui fait que son joueur, s'il reçoit la rondelle, il y aura toujours Jakim Chuck en option à quelque part. Il va vraiment trouver la manière d'activer le jeu, de mêler la couverture défensive de l'autre bord. Et ça, j'aime vraiment ça. Puis, je parlais de son patin en ligne droite qui est vraiment, vraiment à travailler. Mais la protection de rondelle, quand il se fait pourchasser, est vraiment excellente de Yakimchuk. Son frame, tu sais, c'est pas juste parce qu'il est gros que c'est bon, là. C'est aussi parce qu'on dirait qu'il y a des yeux derrière la tête et qu'il sait où est-ce que le gars est. Donc, il sait comment barrer le défenseur derrière pour pas qu'il atteigne la rondelle. Donc, tu sais, je l'ai vu, mettons, faire une interception, partir en fusée, tu sais, en fusée sans être vraiment rapide, mais à cause que tous les joueurs étaient
Ben,
arrêtés
tu
de
peux
l'autre
rien faire.
bord, il est parti tout seul. Le gars l'a rattrapé, mais à cause qu'il avait une bonne protection, il était capable de faire son tir au but. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose justement, qui me fait faire comme, OK, ce gars-là, malgré son atout pas incroyable, il est capable de faire ce qu'il veut avec. Je sais pas si tu veux qu'on aille directement au côté
Ben,
défensif, mais tu sais, moi, quand je l'ai dit, il coupe des jeux, il lit tellement bien les lignes.
pour nous lancer à la zone défensive,
Ouais.
j'aimerais ça faire un peu comme la semaine dernière avec Dinkinson où je disais que j'avais de la misère à... Il y a deux de ces caractéristiques que j'ai mis en zone offensive, mais je pense qu'ils rentrent autant bien dans la zone défensive offensive. Fait que je les présente, puis après ça, je te
Vas-y.
laisse amener la zone
Vas-y.
défensive. Déjà, j'aime bien la distance à laquelle il est prêt à partir l'attaque. Donc, c'est-à-dire que s'il est dans sa zone, puis il voit qu'il y a une ligne qui est ouverte, qu'il peut partir avec, il le fait. Puis ça, c'est excellent pour l'attaque parce que ça prend par surprise. Puis tu sais, les Hitmen, c'est pas une équipe qui bâtisse, c'est pas une équipe avec beaucoup de skill. Donc, ça surprend aussi beaucoup l'autre équipe. Ça se marie bien avec son aspect surprise, mais j'aime bien à quelle distance est-ce qu'il part l'attaque. Puis ça, c'est utile offensivement parce que ça part une attaque, mais c'est aussi utile défensivement parce qu'il sort la puck de sa zone. C'est pas un gars qui reste coincé dans sa zone avec la puck. Quand il voit une option pour partir, il le fait vraiment. Puis deuxièmement, c'est un aspect, ça, qui, je trouve que c'est son aspect qui saute aux yeux le plus partout sur la glace, c'est à quel point est-ce que ce gars-là va aller punir les autres équipes pour les erreurs qu'ils font. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une passe molle, puis que lui est proche, fais attention parce que tu vas te faire prendre la puck. Puis ça, c'est dans sa zone ou dans la zone adverse. Donc, c'est-à-dire quand il est en offense, quand les joueurs essaient de sortir de la zone, puis ils font un dégagement un peu trop faible, il est dessus, il prend le contrôle, puis l'attaque est relancée pour les Hitmen. Puis dans sa zone, si son placement n'est pas tout le temps parfait, mais s'il est proche d'un gars, puis que le gars contrôle mal la puck, là, tu vas te faire punir pour ça. Tu ne peux pas faire d'erreur juste à côté de Yaremchuk. Fait que je te laisse rentrer dans la zone défensive après avoir présenté ça.
Ouais, ben, du côté positif, c'est ça. C'est, tu sais, on a parlé même, on se débattait un peu de est-ce que c'est un IQ offensif ou défensif de savoir lire le jeu offensif de l'autre bord? Puis, tu sais, moi, je le vois comme un peu du côté plus offensif. C'est un IQ offensif qui lui sert en défense parce que il est capable de savoir qu'est-ce que l'ailier devant lui ou qu'est-ce que le joueur devant lui va penser. Et le nombre de fois que, tu sais, c'était des bonnes passes, c'était des bonnes idées de l'autre bord, mais Yakimchuk était là. Il les bloque et non seulement il les bloque, mais il fait quelque chose avec. Puis ça, il le fait en zone défensive. Il le fait en zone neutre, mais il le fait aussi en zone offensive. Donc, sans faire un forecheck parce que c'est un défenseur, mais il est tellement bon pour faire une pression puis compliquer le jeu, les autres, forcer l'adversaire à faire un jeu. Puis juste de cette manière-là, il repousse le temps de possession de son équipe en zone. Et vraiment, ça, c'est un atout que ça ne s'apprend pas d'être capable de lire les jeux avant qu'ils se passent. Puis je pense qu'il va être capable de le répliquer aussi au prochain niveau. Pour encore rester dans le positif, ce que j'aime, c'est que ça, c'est un défenseur offensif, sauf que s'il voit que ses coéquipiers sont les quatre dans la zone offensive et que là, ça chamaille entre la possession, il ne va pas hésiter à reculer et à être le défenseur vraiment quasiment rendu à la ligne rouge pour s'assurer d'être là. T'sais, je l'ai vu rarement se positionner puis se mettre dans une position qui mettrait son équipe dans le tort. Il va faire des bons pinches, il va faire t'sais, une bonne décision de où est-ce se mettre. Et ça aide parce qu'il est fort physiquement. Donc, souvent, quand il se met à quelque part, s'il est un peu déporté, il va être capable de juste pousser le gars ou juste se mettre devant lui. Ou, tu sais, juste trouver une manière d'empêcher que comment dire, que le jeu de l'autre bord se fasse autant clean. Puis, moi, je m'étais noté qu'il n'a pas peur des mêlées, c'est les mêlées qui ont peur de lui parce que quand il rentre, là, c'est vraiment comme tu sais, un Shea Weber qui rentre, il te pogne, puis tu sais, bam, bam, bam. Tu sais, fait vraiment, il est vraiment
On
rugueux, il est dangereux.
le voit quand même aussi,
Ben,
ce
on
genre
le
de
voit.
truc-là, dans
Ouais.
la stat de
Mais
120 minutes de
ben c'est ça, puis
pénalité,
ça,
là.
je veux l'expliquer. Tu sais, il y a eu une game de 20 minutes,
Ouais.
deux games de 16, puis genre deux de 10 minutes. Donc, tu sais, on ne sait pas si comment ça s'est
Mais
passé.
quand quelqu'un se retrouve avec 120 minutes de pénalité puis fait 6-3, d'habitude, ça veut dire que c'est pas le type de gars contre qui tu veux aller dans la
Non,
mêlée.
c'est ça. Puis, tu sais, c'est peut-être pas un Alexis Bernier en termes de punition, mais justement, si je peux passer au négatif, c'est que je trouve qu'il pourrait faire plus mal. Je trouve que devant le net, c'est encore trop sympathique quand il y a Kemchuk est là, parce que c'est ça qui m'étonne, c'est que des fois, il a l'air d'un gars qui tu sais, pourrait faire super mal, faire des gros plaques, mais quand tu arrives devant le but, c'est comme si il n'est pas tant fâché que tu sois là. Il ne va pas vraiment donner des gros coups. Tu sais, patin arrière, c'est pas le top. Des fois, je trouve que ses passes en sortie de zone sont correctes, mais dès que le gars patine, dès que tu sais, il doit faire une passe avec très peu de temps puis que le gars patine, je trouve que souvent, il va manquer soit trop loin, soit trop court. Mais tu sais, encore là, des fois, il va jouer trop le corps au lieu de la rondelle. Il va peut-être, en situation de stress, mettons un 2v1, où il va peut-être des fois faire des moves trop rapides. Des fois, il va se pitcher beaucoup trop tôt dans un 2 contre 1. Alors, tu te dis, mais pourquoi tu t'es pitché là? Ils viennent de rentrer dans la zone. Tu sais, juste dernier, là, c'est, je trouve que des fois, on dirait qu'il ne donne pas les petits efforts de plus pour freiner le jeu de l'autre bord. C'est juste, moi, c'est vraiment ça, mon inquiétude. C'est, des fois, je le trouve mou dans son jeu défensif.
Bon, je pense que tu as pas mal couvert les positifs, sauf un. Un gros okay. Que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est à quel point est-ce que, honnêtement, son jeu en zone défensive, quand l'autre équipe est installée, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes avec. Certains problèmes, j'ai quand même espoir que ça va être réglé quand il va être dans une meilleure équipe, mais je reste que j'ai beaucoup de problèmes avec. Mais, par contre, avant que l'autre équipe soit installée, je trouve qu'il empêche vraiment bien l'équipe de rentrer à la ligne bleue. Donc, tu sais, un petit, s'il voit que la puck est libre, un petit push en haut pour la sortir de la zone avant qu'elle soit rentrée. Donc, empêcher l'autre équipe de rentrer dans sa zone, ça, je trouve qu'il fait.
Surtout par le centre. Moi, je me suis dit, s'il ne laisse pas rentrer au centre, tu sais.
Non, j'ai rien à critiquer à ce niveau-là. Quand c'est question de pincher, mais tu sais, pas sur le bord de la bande, genre vraiment au milieu. Il fait super bien. Ça, c'est impeccable. Pour parler de mon premier problème, ça, c'est le problème que je pense qui va être le plus réglé par une meilleure équipe. Tout d'abord, c'est que puis c'est un problème un peu fâchant parce qu'on sait qu'il peut bien le faire. Donc, tu sais, pour la... Je pense que c'est ça beaucoup que beaucoup de mes problèmes en zone défensive se résument à ce mot-là, c'est l'inconsistance. Déjà, des fois, quand il est installé en zone offensive, on le voit revenir super bien, avoir de la bonne vitesse quand même, revenir assez à temps pour ne pas se faire prendre derrière le jeu. Mais ça arrive quand même souvent que, vu qu'il est installé en haut, il se fait prendre. Puis, tu sais, un défenseur de 6 pieds 3, tu veux qu'il soit dans ta zone pour t'aider à défendre. Puis, des fois, justement, vu qu'il était trop installé en zone offensive, ou bien qu'il a fait un mouvement, puis là, l'autre gardien l'a arrêté, puis là, une relance rapide de l'autre équipe, bien, lui, il est complètement derrière le play. Puis, vu qu'il n'a pas la plus grande vitesse en ligne droite, il est complètement derrière le jeu. Mais ça, c'est le problème que j'ai dit que je pense que ça va être le plus facile à régler dans une bonne équipe. Pourquoi est-ce que parce que dans une meilleure équipe, ils vont moins dépendre de lui. Là, il est tout le temps en avant.
Il y a des coéquipiers qui vont bien.
Ouais. Ils n'ont pas le choix. C'est le meilleur pointeur de l'équipe. Ça veut dire que si lui ne marque pas, l'équipe, tu ne peux pas gagner de match sans marquer de but. Fait que c'est sûr que l'équipe pousse pour qu'il joue en offense. Fait que je pense que ce problème-là va se faire régler. Puis, il y a une capacité aussi. C'est pas le plus rapide pour revenir dans sa zone, mais je pense que quand il n'est pas trop impliqué dans le jeu offensif, il time bien son retour malgré sa vitesse. Comme tu l'as dit, utilise super bien son corps. Par contre, c'est ça, tous les autres problèmes, ce qui a été difficile avec lui, c'est de savoir qu'est-ce qui va se faire régler par une meilleure équipe, puis qu'est-ce qui est vraiment un problème de IQ, tu sais, interne dans sa tête. Puis c'est ce qui est... intelligence générale, mais ce qui est fâchant avec lui, c'est que pour toutes les critiques que je lui fais, il y a des moments où il montre qu'il est capable de le faire. C'est juste que, justement, c'est inconsistant. Comme, par exemple, son placement. Tu as dit que des fois, il était super bien placé pour justement aller déranger l'autre équipe. Et il est super bien placé devant le net, malgré le manque d'intensité. Je suis d'accord, il y a des fois, tu le vois installer dans la zone, tu es comme, OK, tu fais exactement ce que j'aurais besoin qu'un joueur comme toi fasse. Mais trop souvent, j'ai l'impression qu'il se perd un peu. Je ne sais pas si c'est parce que le jeu bouge un peu trop, une petite passe qui ne s'y attend pas, mais... Là, il est comme, OK, je ne sais pas trop quoi faire. Fait que soit il va aller trop coller la puck, soit aller trop coller un petit teammate, mais on dirait qu'il sait plus trop où se placer dans la zone défensive. Fait que, ça me fait remettre un peu en question à quel point est-ce qu'il y a un instinct défensif. Puis, vu le type de joueur que c'est, je pense que c'est quand même quelqu'un qui va beaucoup plus amener avec son offense, même si, comme tu as dit, sa défensive, il ne sera pas inutile en défense.
C'est vraiment pas un gars que tu dis aïe aïe comme. Défensivement, tu sais, mettons un joueur de l'année passée avec les Tri-City Americans, là.
Dragicevic,
justement, qui lui, c'était vraiment comme être défensivement, il est inexistant, donc il faudrait qu'il fasse 100 points pour être un peu utile. Mais là, juste parler deux secondes de quand il est perdu, parce que moi, j'ai réalisé quelque chose en regardant. Premier match, j'allais regarder, je voyais justement la même affaire. Je le trouvais perdu en zone défensive. Je le trouvais positionnellement un peu étrange. Souvent, il se ramassait tout seul à chercher son gars. Et dans la deuxième game que j'ai regardé, vers la fin de la game, j'ai comme fait Aïe, aïe, ok, c'est parce qu'il joue man-to-man. J'ai porté attention juste à un autre paire de défensives. Et là, j'ai vu qu'il faisait man-to-man. Puis là, quand Yarimchuk est revenu, j'ai vu qu'il faisait man-to-man. Et c'est vraiment une stratégie qui est de moins en moins utilisée. Le Canadien l'utilise, mais elle est très, très, très remise en question. Et avec raison, parce que justement, quand tu as une équipe comme Calgary Hitmen, qui ne sont pas une équipe avec des défenseurs de haut calibre, qui sont une équipe avec des défenseurs plus petits, souvent, c'est très limité dans leur capacité défensive. Et là, tu leur demandes de faire un man-to-man, ce qui fait que des fois, là, Yakimchuk, justement, il se ramassait à pogner son gars, mais là, le gars de l'autre défenseur l'amenait à droite. Et là, Yakimchuk, un défenseur droitier, était à droite. Et là, il se ramassait à regarder. Puis là, la gauche était complètement vide parce que l'autre défenseur était parti. Donc, Yakimchuk a l'air perdu parce que là, il faut qu'il compense sur le fait que l'autre gars est parti le gaucher est parti à droite et là, il n'y a plus rien à gauche. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment d'accord que clairement, il y a un problème, mais j'aimerais ça le voir justement dans une équipe un peu plus améliorée parce que je pense que ça, c'est quelque chose de très, tu
Ouais.
sais, qui se corrige vite. Puis, moi, tu sais, si je devais comme penser à où est-ce que ce gars-là pourrait, tu sais, non, mais je parle en termes de défensive, là.
Ouais.
Tu sais, je pense que avec une équipe avec des défenseurs, comme tu l'as dit, qui peut faire confiance à eux avec un système beaucoup plus établi, avec des gars de meilleur calibre, je pense que ça se tasse direct.
Ben c'est ça, c'est sûr que le système, ça changerait quelque chose. Ça pourrait vraiment aider son aspect positionnement, même si je pense que c'est vraiment un gars qui va devoir, tu sais, admettons quand il est en offense, il n'a pas besoin d'y penser. Ça vient comme des réflexes. Je pense que son positionnement, c'est quand même quelque chose auquel il a besoin
Oui,
de plus
exactement.
réfléchir. C'est moins d'instinct. Puis le système, par contre, n'explique pas. Moi, j'ai vraiment un problème avec sa prise de décision. Donc, tu sais, comme tu as dit tantôt, quand jouer le corps, quand jouer la puck, je pense que. Puis les deux, il peut bien le faire. C'est ça qui est un peu fâchant avec, c'est que quand il a besoin de jouer le corps, puis il joue le corps. Ça marche super bien. Puis son bâton, tu sais, il est solide sur son bâton quand même.
Puis
Mais quand.
offensivement, il prend bien ces décisions-là, c'est
Ouais, c'est ça.
défensivement.
Puis, oui ou non, offensivement, j'ai aucun problème. IQ, c'est comme si c'était inné, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais en défense, c'est ça. Quand il a besoin de jouer la puck, puis il joue la puck, ça marche super bien. Quand il a besoin de jouer le corps, puis il joue le corps, ça marche super bien. Par contre, c'est juste quand tu joues le corps, puis quand tu as besoin de jouer la puck, ben, tu sais, on a vu un exemple dans le match des Canadiens tantôt, là, avec Struble qui joue le corps à la place de la puck, puis qui se fait passer super facilement. Mais avec Kemchuk, j'ai quand même vu ce problème-là revenir plusieurs fois. Ah, tu devrais jouer la puck, là, à la place, tu joues le corps, fait que tu te mets complètement hors de position, tu sais. Puis ça, c'est pas expliqué par du man-to-man, c'est expliqué par sur le moment, quand tu as une décision rapide à prendre, tu prends la mauvaise décision. Est-ce que c'est 100% du temps la mauvaise décision? Non. Comme j'ai dit, il a montré qu'il était capable de faire le truc. Je pense potentiel défensif va être limité par le fait que justement c'est quelqu'un qui a plus besoin de réfléchir en défense, tandis qu'en attaque, ben c'est ça vient de l'intérieur.
Ouais, ben regarde, pour clore
Ouais, c'est ça.
l'analyse, Yakimchuk, moi, je l'ai vraiment en haute estime. Tu sais, je pense que justement, la majorité de ses défauts sont corrigeables et son style de jeu est vraiment transposable à la Ligue nationale. Puis, ce qui me fait dire que ce gars-là pourrait sortir plus haut qu'un Sam Dickinson, qu'un Parekh, d'un, son frame, de deux, sa latéralité, mais de trois aussi, c'est qu'il est singulier comme type de joueur. Je l'ai dit, c'est un défenseur offensif rugueux. C'est un défenseur que tu peux vraiment voir rendu au prochain niveau, je pense, comme un premier défenseur parce que il va être un leader, il va t'amener des points, puis en plus, il ne va pas te nuire défensivement. Puis même, je pense que justement, s'il corrige ses erreurs principales, il pourrait devenir même utile à la défensive de son équipe. Et je pense que c'est ça. Il a tout ce qu'il faut pour devenir un défenseur de première paire, numéro un selon moi, qui peut vraiment prendre la pression sur ses épaules.
Ouais, ben j'ai hâte de voir justement où est-ce qu'il va être dans nos
Dans notre
top à la
liste,
fin de
ouais.
l'année quand ça va être fini. Parce que moi, c'est un gars, ma prédiction en ce moment, quand il reste des visionnages à faire, c'est que ça va être le gars qui va être juste un ou deux pics en dessous de Dinkinson dans mon top 10. Parce que je pense qu'il est vraiment proche, mais que Dinkinson, le jeu tout m'excite un petit peu plus. Par contre, c'est ça, c'est le type de gars, je pense qu'il pourrait vraiment faire une cause. Pour entre le pick 5 et 10, tu
Ouais.
sais, ses skills offensifs, puis défensivement, ce n'est pas une cause perdue, là. C'est vraiment, tu sais, il est solide. Pourrait vraiment justifier une équipe d'aller prendre ce projet-là, puis d'essayer de bien le modeler, parce qu'il va être beaucoup plus facile à modeler que justement un Dragicevic, comme tu as dit là, la saison dernière, d'aller le prendre autant haut que ça, puis s'il est disponible après le 10e pick, s'il est disponible en 10 et 15, moi, à mon avis, c'est juste, c'est comme go, go, go. Si ce gars-là est disponible en 10 et 15, tu vas le prendre, tu vas le travailler, puis il va devenir justement. Un défenseur de top pairing qui produit énormément en offensive. Le seul défenseur de cette QV-là 2024 que je vois qui pourrait plus produire que lui, c'est Zane Parikh.
Ouais, puis Zane Parikh, on n'a pas fait d'analyse encore sur lui. Donc, si vous en voulez une sur lui, dites-le dans les commentaires.
On vous le dit à chaque fois.
On vous le dit à chaque fois, mais bon, sur ce.
Ben oui, écoute, merci à tout le monde d'avoir écouté cette semaine. La semaine dernière, on clôt un peu, si on peut dire ça comme ça, notre série. La semaine prochaine, on clôt un peu notre série d'interviews avec des joueuses U-Sport. Donc, juste pour dire que c'est la dernière qui est prévue pour le moment. Avec la gardienne de but de Concordia, Ariane Leblanc. Donc, quand même, qui vient d'avoir une saison phénoménale d'à peu près 9-40 à le 18 ans quand elle a commencé la Ligue. Donc, pour mettre en perspective, la majorité des joueurs, quand ils arrivent à universitaire, ils ont 20, 21, 22, puis elle a 18 ans. Elle a gagné meilleure gardienne de but de la RSEQ. Donc, soyez avec nous la semaine prochaine.
Merci beaucoup.